VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Crise au Burundi, l'émissaire spécial du président américain dans la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, a indiqué aujourd'hui que la balle est maintenant dans le camp du gouvernement burundais pour ce qui est de la réalisation des promesses concernant le respect des droits humains, la libération des prisonniers politiques et la venue des observateurs onusiens des droits de l'homme. Thomas Perriello, qui s'est rendu à Bujumbura et à l'intérieur du pays pour la 7e fois, affirme que le dialogue inclusif est le seul remède à la crise burundaise. Il a aussi souligné que les États-Unis restent disponibles pour appuyer le Burundi sur les plans techniques et financiers. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après avoir rencontré certains membres du gouvernement et des responsables de la société civile, l'envoyé spécial du président américain Thomas Perriello a reconnu que depuis qu'il est venu au Burundi, les autorités gouvernementales ont promis une amélioration au niveau des droits humains, mais que force est de constater que les tortures continuent. Perriello a affirmé que 595 cas de torture ont été documentés par les services onusiens, mais que personne n'a été inculpé jusqu'à ce jour. Même constat pour la libération des prisonniers politiques, il en est de même en ce qui concerne les 200 observateurs des Nations Unies. S'étant rendu au Burundi pour la 7e fois, l'envoyé spécial du président américain estime que ce double langage est un frein au dialogue inclusif pour trouver une solution pérenne à la crise burundaise qui a déjà fait des centaines de personnes tuées. Perriello a indiqué que les États-Unis seront toujours à côté du gouvernement burundais pour trouver une solution consensuelle. Il se rend après Bujumbura à Dar es Salaam en Tanzanie pour discuter avec le nouveau facilitateur dans la crise inter-burundaise, l'ancien président Benjamin William Kappa, Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Zambie, les violences xénophobes ont continué pour le second jour consécutif. Des centaines de personnes ont attaqué et pillé les magasins tenus par des étrangers, notamment des Rwandais et des Burundais, dans plusieurs bidonvilles de Lusaka, la capitale. Ces étrangers sont accusés d'être à l'origine de la mort récente de 7 personnes dont les corps ont été retrouvés amputés. Un témoignage avec Jean Damascène, un des réfugiés rwandais de Makeni South, un bidonville de Lusaka.
La situation n'est pas bonne. Ça a commencé par les rumeurs disant que les étrangers ont participé dans la sécurité, que les Rwandais sont ici au grand nombre. Ils ont des boutiques. Le peuple de Zambie a commencé de chasser. Ils ont profité de l'occasion pour voler les produits dans les boutiques des étrangers. Ça continue, même ici, vous pouvez attendre le bruit de la population protester en disant qu'il ne verrait pas des étrangers ici. Que la population ici a la mentalité de haïr des étrangers en disant qu'ils ont pris leur travail. Je peux dire que c'est pour les Rwandais et les Burundais. Nous avons perdu beaucoup de produits, beaucoup de biens. Ils ont pris tous les produits qui se trouvaient dans les boutiques. Beaucoup de Rwandais sont maintenant au HPR. Les autres sont au police. Il y en a des autres qui sont restés dans les maisons pour attendre de voir si la police peut calmer la situation.
Jean Damascène, réfugié rwandais de Makeni South, un bidonville de Lusaka, au micro d'Idriss Fall.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Centrafrique, l'Union européenne a officiellement lancé aujourd'hui une mission de formation de l'armée centrafricaine qui prendra le relais de l'opération française Sangaris avec les forces de l'ONU présentes sur place pour stabiliser le pays après 3 ans de conflit. Ce nouvel organisme succédera à la mission européenne de conseil aux forces armées centrafricaines dont le mandat expire en juillet. Sa base sera à Bangui et son mandat est pour une période initiale de 2 ans. Pour une réaction du gouvernement centrafricain, Félix Yepa-Sizembou a contacté le ministre de la Défense, Joseph Yakété.
C'est une très très bonne décision, hein, parce que l'Union européenne a toujours été notre partenaire privilégié et l'armée centrafricaine a besoin de cette formation. Comme vous le savez, l'armée centrafricaine a perdu tous ses repères. C'est une armée qui a été humiliée, une armée qui a été complètement déstructurée et aujourd'hui, cette armée se relève et la formation est l'un des éléments qui pourront faire donc de cette armée une armée de professionnels, une armée digne de ce nom.
Justement, Monsieur le ministre, vous héritez du ministère de la Défense à l'heure où l'on parle de plus en plus de la restructuration et du réarmement des FACA. Quel est votre sentiment à cet effet ?
Réhabiliter les FACAS, c'est une exigence nationale et c'est aussi l'une des préoccupations majeures du chef suprême des armées, hein, le président de la République, M. Faustin Archange Touadéra, puisque un pays sans armée n'est pas un pays, pas un pays moderne.
Le ministre centrafricain de la Défense, Joseph Yakété. Au Tchad, 17 délégués des partis politiques de l'opposition mandatés à participer au dépouillement du vote de la présidentielle du 10 avril à la CENI, la Commission électorale nationale, viennent de claquer la porte. Une décision rendue publique lors d'un point de presse des intéressés aujourd'hui. Un extrait de leur déclaration, lu par leur porte-parole Makido Diombaye, au micro de notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Recenser les résultats électoraux, c'est poser des questions si irrégularité est constatée sur un procès verbal à l'effet d'obtenir des renseignements nécessaires. C'est aussi obtenir à être en mesure de connaître les résultats de son candidat à la fin de l'opération. Nous avons été autorisés à accéder à la salle de saisie et de contrôle, mais nous ne sommes pas autorisés à poser des questions aux agents de saisie ni à prendre des notes. De plus, nous sommes privés de nos téléphones portables tandis que ceux du MPS utilisent librement les leurs. Ainsi, refusant de cautionner le faux qui est en train d'être mis en place par la CENI et son organe technique, le Bureau permanent des élections, nous, délégués des candidats, avons décidé en date du 17 avril 2016 de nous retirer du processus de dépouillement des résultats. Par conséquent, les délégués des candidats de l'opposition ne se reconnaissent pas dans les opérations de recensement des résultats. Ce travail de recensement des résultats de tous les bureaux de vote de l'intérieur et de l'extérieur a commencé de façon non conforme aux dispositions du code électoral et se poursuit en toute illégalité.
Makido Diombaye, porte-parole des observateurs de l'opposition qui se sont retirés du processus de dépouillement du vote présidentiel au Tchad.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, au Mali, trois membres de la Croix-Rouge portés disparus depuis samedi près d'Abeibara, à quelques 140 km au nord de Kidal, et actuellement aux mains d'un groupe inconnu. Nicolas Pino a contacté Valérie Mboanana, porte-parole du CICR dans le pays, pour en savoir davantage. On écoute M. Mboanana.
Lorsque les opérations des forces françaises sont déroulées, notamment dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16, il semblerait que le guide du CIC aurait été arrêté. Donc le samedi matin, nos équipes sont donc parties de leur point de couchage vers Kidal. À peine ils sont partis de Abeibara qu'ils ont été abordés par quelqu'un qui était à moto. Et cette personne leur a demandé de le suivre parce qu'il y a un des responsables de la communauté qui souhaitait leur parler. Donc ils ont décidé de suivre ce monsieur. Et c'est ainsi qu'on a donc perdu le contact avec eux. Ça, c'est des informations que nous avons pu avoir à la suite de la libération de l'un de nos collègues. D'après ce qu'il nous a dit également, ils sont détenus dans de bonnes conditions et puis ils n'ont pas fait l'objet de mauvais traitements.
Quel type d'opération mène le CICR dans cette partie du Mali?
Nous avons effectivement plusieurs types d'opérations que nous menons dans cette région du Mali. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nos collègues étaient en déplacement dans la région de Abeibara. Nous avons notamment de vastes programmes d'accès à l'eau potable. Comme vous le savez, c'est une région assez aride, quelque peu désertique, et l'accès à l'eau potable est vital pour les populations.
Valérie Mboanana, porte-parole du CICR au Mali. Rappelons qu'en février 2014, 5 humanitaires avaient été enlevés près de Tombouctou avant d'être libérés 2 mois plus tard par l'armée française. Toujours concernant le Mali, catastrophe aérienne de Gossi dans le nord malien, les enquêteurs français présenteront vendredi leur rapport final sur l'accident de l'avion d'Air Algérie qui avait fait 116 morts en juillet 2014. Le vol Ouagadougou-Algérie s'était écrasé près de Gossi. Dans le nord du Cameroun, un petit garçon a été tué accidentellement lundi après avoir été percuté par une voiture du convoi de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power. Elle était en tournée régionale pour la lutte contre les islamistes Boko Haram. Et puis au Soudan du Sud, l'arrivée du chef de l'ex-rébellion Riek Machar dans la capitale Juba, où il est censé prendre ses fonctions de vice-président, élément incontournable de l'accord de paix, a été de nouveau repoussée selon William Ezekiel, l'un des porte-parole de l'ex-rebelle à Juba. L'ex-rébellion invoque de nouveau des problèmes logistiques. Et pour terminer, primaire présidentielle américaine, les électeurs de l'État de New York votent aujourd'hui dans la primaire au cours de laquelle la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump espèrent conforter leur avance dans la course pour l'investiture de leur parti comme candidat à la présidence. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.